Hanriner, les enracinés. Psychodore, philosophe cynique, ayant perdu celle qu'il aimait, résolut de vivre errant, étranger à tout et à tous. Sans autre bagage qu'un vieux manteau sur ses épaules et à la main un rude bâton, il partit. Tout le jour, il marchait au hasard. Quand il avait faim, il mangeait ce qui se trouvait à sa portée. Souvent, quelqu'un protestait, qui n'avait nul besoin de cette nourriture, mais s'en prétendait propriétaire. Psychodore n'entendait pas les cris. Parfois, le maître de la nourriture bousculait le cynique qui réveillait de son rêve, frappait avec son bâton. Mais des esclaves accouraient, on saisissait l'audacieux, qui considérait la faim comme une raison de manger. On le traînait devant les tribunaux. Or, il savait que les oreilles des juges, bouchées par les toupes des lois, ne peuvent plus entendre et il ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées. D'ordinaire, on le laissait aller, le croyant fou. D'autres fois, on l'enfermait pour quelques jours en des prisons. Le soir, Psychodore se couchait en même temps que le soleil. Quand il était libre, son lit était le bord de la route ou le fond d'un torrent sans eau. Psychodore marcha 3 ans sans s'arrêter volontairement pendant le jour et sans prononcer une seule parole. Il est probable qu'il ne voyait des objets extérieurs que les plus extraordinaires, mais son esprit les traduisait en symboles d'éternité. Or, dès que la chose lui avait donné une pensée plus belle qu'elle-même, il cessait de regarder les choses. Comme Psychodore eut marché 3 ans, il se trouva au sommet d'une grande montagne et il regarda en bas et autour de lui. Car des cris montaient, étranges, cris de querelle qui faisaient songer, quoique articulés, aux branches d'une forêt froissée par une tempête. Le lieu où se trouvait Psychodore était singulier. La montagne formait un cercle presque parfait et sa crête égale n'était coupée d'aucune gorge. Dans la profonde plaine circulaire, des hommes grands comme des chênes se balançaient follement parmi les clameurs. Le cynique descendit vers ces géants et il vit avec étonnement que leurs pieds enfonçaient dans la terre. Comme quelques-uns étaient sur le bord d'un précipice, il sut que de chaque pied partaient de longues et sinueuses racines. Voyant qu'ici il y avait vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose à comprendre, Psychodore s'arrêta en ce pays. Malgré leur taille gigantesque et leurs indéracinables prolongements souterrains, les habitants de cette plaine étaient bien des hommes, non des arbres. Ils n'avaient ni feuilles, ni fleurs, ni ramures. Leur nudité permettait de voir qu'ils n'étaient point couverts d'écorce, mais d'une peau fine et blanche comme celle des barbares du Nord. Ils avaient une tête et 2 bras. Leur corps, dans son énormité, était de proportions harmonieuses, et leurs poses variaient, souples et onduleuses, comme les attitudes des lutteurs. Parfois, ils s'asseyaient. Le soir, leurs jambes seules restaient droites comme 2 troncs jumeaux, tandis que le vent du sommeil ployait leurs genoux et les couchait sur le dos. Mais outre le pouvoir de changer de lieu, un autre bien leur manquait, qui jadis parut précieux à Psychodore. Les enracinés n'avaient pas de sexe. Mais la nature avait refusé à ces hommes le pouvoir de procréer parce qu'elle les avait faits immortels. Le cynique devina bientôt ce privilège, et il ne fut point jaloux. Mais il resta, observant et étudiant leur langage, car un doute l'avait rendu avide de connaître leurs pensées. Peut-être ils sont savants comme des dieux, et ils m'apprendront ce qu'est devenue ma bien-aimée, et où je pourrai la retrouver. Quand il comprit quelques-unes de leurs paroles, Psychodore s'aperçut que la forêt était ignorante et grossière comme tous les peuples. il fréquenta de préférence les enracinés que le destin avait isolés. Mais il vit que chez ceux-là, l'erreur était plus étrange, absurde comme la folie, et non plus comme la sottise, et il s'enorgueillissait de leurs pensées ingénieuses et fragiles. Cependant, Psychodore ne s'éloigna pas encore, mais il se dit « J'ai l'angoisse de la durée, ils ont l'angoisse de l'espace. Les sottises et les folies qu'ils disent sur le monde étendu correspondant sans doute à ces erreurs sur le monde qui persiste. Le temps et l'espace sont des frères jumeaux, tout semblables l'un à l'autre. Leur père s'appelle l'immense et leur mère dit « Je suis éternité ». Et le sourire avec lequel il écoutait les géants immobiles blâmait aussi les pensées d'hommes qui marchent. Car ceux d'entre les géants qui s'appelaient eux-mêmes les sages multipliaient les négations hardies ou timides, disant « Il n'y a rien au-delà de l'horizon » ou bien « Gardons-nous d'affirmer ou de nier ce que nos sens ne peuvent saisir. La plaine que nous habitons est-elle tout l'univers ? Et le mur des montagnes se dresse-t-il entre l'être et le néant ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Ne nous occupons pas de l'inconnaissable et faisons méthodiquement la science du monde visible. » Cependant, le peuple croyait « Le soleil se lève dans le vide, mais il se couche dans le plein d'un autre monde. Il nous éclaire d'abord, il éclaire ensuite d'autres êtres. L'Orient est désert. L'Orient de la montagne est un néant. L'Occident contient deux mondes, un pays de délices humides où la terre est généreuse, un pays de tourments et de sécheresse. Dans l'un, des hommes meilleurs que nous plongent leurs racines heureuses, et dans l'autre, des méchants souffrent, car la terre brûle et fournit peu de nourriture. » Et le peuple croyait encore « C'est le même soleil qui revient tous les jours. Après avoir éclairé le paradis et l'enfer, il saute brusque à travers le néant au sommet de la montagne orientale. » Quelques-uns même soupçonnaient « Peut-être que le néant traverse le soleil matinal et qu'il n'est pas rien. Mais est-il un chaos, une masse, où les choses sont indiscernables, néant de la forme ? Soit, mais où la matière s'agite, inharmonieuse et infinie. » Mais les sages hardis rétorquaient « Oh, il n'y a rien en dehors de ce que nous connaissons. » Et les sages dont la pensée est lâche « Nous ne connaissons que ce que nous connaissons. » Puis les uns reprenaient « Il est certain que... » Les autres « Il est probable que... » Et tous les sages continuaient d'accord. Ce qui n'a pas de racine ne saurait durer. Le soleil qui se déplace naît et meurt comme le chien qui court ou l'oiseau qui vole. Et le soleil d'aujourd'hui n'est pas la pourriture du soleil d'hier. Mais la foule s'irritait contre de telles paroles. Elle sentait bien, malgré ses ignorances, que le soleil ne meurt pas chaque soir. Et Psychodore songeait « Ton âme, bien-aimée disparue, est un soleil couché pour moi, mais qui traverse d'autres régions. Et les durées occidentales ne sont ni élyséennes ni infernales, mais elles diffèrent peu des temps de l'Est et des temps du Nord et des temps du Midi. » Et le sage Psychodore eut une folie. Il voulut dire à ces êtres troublés de l'angoisse de l'espace la vérité libératrice. Il se plaça, à rangeur ridiculement petit, devant la foule des géants et il cria « Écoutez ma parole, je viens de l'autre côté de la montagne et je sais. » Tous écoutèrent haletant. Il reprit « Les limites sont des apparences. Autour de la montagne, la vie continue, pas très différente de ce qu'elle est ici. » Psychodore ne comprit pas ce qui se passait, mais l'instinct, plus sûr et plus prompt que la pensée, le poussa dans une fuite éperdue. Quand il se retourna, tremblant, il vit toute la forêt couchée par un vent de colère. Les bras allongés cherchaient à le saisir. Des malédictions vouaient aux tortures le prophète qui annonçait des vérités trop simples. Et ces furieux clamaient que l'inconnu ne pouvait être que néant ou merveille, d'effroi et de joie. Poursuivi par des cris et par des pierres, Psychodore courut jusqu'à la montagne. Puis il la franchit, revint au pays où les hommes marchaient comme lui et savaient sur l'espace proche la vérité. Il rencontra deux nains semblables à lui. Il écouta leurs paroles parce qu'il devisait en un dialogue grec qu'il émut de souvenirs délicieux. Mais il eut bientôt un rire de mépris et de douleur intellectuelle. Car l'un des deux hommes disait « À la mort, tout est bien fini. » Et l'autre répliquait « Après la mort, nous recevons pour de bonnes actions des récompenses merveilleuses ou bien d'effrayants châtiments nous attendent pour nos crimes. » Mais Psychodore, revenu à la sagesse du silence, passa sans essayer d'enseigner à ses hommes la simplicité blessante de la vérité.